Garde aux voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, le racisme anti-asiatique. C'est une communauté victime en France, comme en Italie ou aux États-Unis, de stéréotypes. On l'a dit travailleuse, silencieuse, repliée sur elle-même. Une communauté qui fait de plus en plus l'objet de violences verbales ou physiques. Le virus chinois, pour citer l'expression de Donald Trump, est passé par là. En mars dernier, 5 jeunes hommes étaient jugés en France pour avoir lancé des appels à la violence contre les personnes d'origine asiatique. À Atlanta, aux États-Unis, une fusillade faisait 8 morts, dont 6 personnes d'origine asiatique. Ça a suscité une vague d'indignation bien au-delà de la communauté. Mais le racisme anti-asiatique ne date pas de cette crise sanitaire. En 2016, on se souvient de la mort du couturier chinois Shaolin Zhang à Aubervilliers, en région parisienne. Il avait fait prendre déjà conscience aux médias, aux pouvoirs publics de l'existence d'un problème en France. Une sociologue a enquêté sur cette minorité modèle dont la réussite économique agace. Bonjour Yaran Chang.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse à l'Institut National d'Études Démographiques, l'INED, et vous publiez à partir d'une thèse de doctorat un livre grand public avec beaucoup de témoignages intimes de cette jeune génération franco-chinoise, une minorité modèle, point d'interrogation, chinois de France et racisme anti-asiatique, et c'est publié à La Découverte. On sera aussi en ligne avec Nicolas Roca à Séoul, en Corée du Sud. Dans la longue liste des clichés et stéréotypes sur les Asiatiques, la K-pop, mouvement musical ultra populaire, un succès planétaire qui énerve jusqu'au Chili. En fin d'émission, un portrait, Hussein, réfugié syrien et étudiant à l'école polytechnique. Charlie Dupiot l'a rencontré. Il revient, lui, sur son exil et les 10 ans de conflit en Syrie.
7 milliards de voisins. À la minute, à la seconde près, on sait tout ce qui se passe au bout du monde. Nous faisons tous partie de la même famille humaine. 7 milliards de voisins.
Yaran Chang, vous êtes vous-même né à Taïwan.
Oui, je suis arrivée à l'âge de 27 ans pour faire ma thèse en France.
Donc vous n'êtes pas ce qu'on appelle une immigrée économique?
Non, je suis venue pour faire des études parce que j'étais très attirée par la sociologie française quand j'étais à Taïwan.
Est-ce que c'est un avantage ou un biais quand on étudie d'un point de vue sociologique la communauté chinoise en France, le fait d'être vous-même asiatique?
Tout d'abord, je pense qu'il y a sans doute un avantage dans le sens que je parle chinois mandarin. Mmh. Mais en même temps, le fait que je suis taïwanaise, ça crée aussi un peu de soupçons au début de terrain. Donc, il fallait aussi plus de travail pour les convaincre. Pour moi, je considère ça plus comme un avantage. Du coup, j'ai pu naviguer entre les points de vue de les deux côtés pour comprendre leurs difficultés d'intégration et les malentendus avec les Français.
Quand vous parlez de méfiance, c'est parce que vous venez d'un pays dissident, évidemment, Taïwan.
Oui.
L'histoire de la communauté chinoise en France ne commence pas au pied des tours du Mini Chinatown à Paris, dans le 13e arrondissement.
Ça a commencé bien plus tôt que ça. En fait, le premier contact entre la Chine et la France a été pris à la fin du 19e siècle, comme quelques commerçants de province de Zhejiang sont venus voyager en France pour vendre des pierres précieuses. Après, on comptait 140 000 hommes chinois qui ont été recrutés pendant la Première Guerre mondiale, ont donc joué dans le champ de bataille, qui ont battu pour la France aussi. Donc, ceux qui sont restés après la guerre deviennent aussi la jeunesse de cette communauté. Finalement, la grande vague d'immigration chinoise sont arrivées à la fin des années 70, après la réforme d'ouverture. Donc, ça donne donc aujourd'hui une communauté très importante en région Île-de-France.
Et cette communauté, elle vient essentiellement d'une région?
Oui, dans les années 60-70, la majorité y vient de la région de Zhejiang, mais à partir des années 90, lorsque les réformes s'élargent en Chine, cette envie, cette stratégie d'immigration devient aussi plus répandue. Donc aujourd'hui, on voit une composition beaucoup plus diversifiée.
Oui. Vous avez rencontré beaucoup de familles de la région de Wenzhou.
Mm-hmm.
Pourquoi ?
Parce que c'est la première région qui a été prise en compte avec la France. Et aujourd'hui, je pense que dans certains recensements, même si on n'a pas des chiffres exactement hyper précis, mais quand même, on peut dire au moins 50%, 60% de population sont quand même issues de régions de Zhejiang.
Ouais. Ce que l'on sait peu, finalement, en France, c'est que les Chinois constituent, après les Marocains et les Algériens, le plus gros flux d'immigrants légaux en France.
Oui, aujourd'hui, ils sont le quatrième flux le plus important pour venir en France.
Est-ce qu'aujourd'hui, on sait, on peut estimer cette communauté entre ceux qui sont nés en France, ceux qui sont nés en Chine ? Combien de personnes ?
Pour ceux qui sont nés en Chine, il y a, dans le recensement de 2015, il y a au moins, aussi à peu près de, au moins 120 000 personnes qui sont nées en Chine et qui résident aujourd'hui en Île-de-France.
Et puis, bien sûr, il y a la deuxième génération, donc oui. Des jeunes qui sont nés en France, qui sont français. Aujourd'hui, la communauté chinoise est installée aux portes des grandes villes, mais surtout dans la région parisienne. Oui. Belleville, à Paris, Aubervilliers, Bagnolet, La Courneuve. La Courneuve, je crois que c'est la ville où il y a la plus forte communauté chinoise.
Oui, en fait, on peut compter à Aubervilliers, La Courneuve, justement, ce sont des villes, des banlieues qui ont accueilli beaucoup de migrants depuis tout le temps. Mais les Chinois s'y sont installés depuis les années 2000 beaucoup en tant que propriétaires pour accéder au logement pas cher. Et aujourd'hui, du coup, à La Courneuve, la composition des habitants sont plus de 130 nationalités, mais les Chinois sont les premiers parmi les étrangers.
C'est la première nationalité. Oui. Parce que, évidemment, le 13e arrondissement dans Paris, les prix de l'immobilier n'ont fait que grimper. Donc, il a fallu que les Chinois trouvent à se loger et trouvent des commerces ailleurs.
Oui, justement, ils ont tendance à s'installer dans d'autres quartiers qui ont déjà une tradition d'installation d'immigrés.
Ouais. Les débouchés économiques de ces immigrés chinois qui viennent principalement de quel secteur quand ils quittent leur pays, la Chine ? Plutôt de l'agriculture ou plutôt déjà du commerce ?
Oui, en fait, c'est marrant. La région de Wenzhou, c'est une région assez agricole, mais qui a aussi beaucoup de petits commerçants, petits ateliers. Donc, beaucoup des immigrés aujourd'hui, beaucoup des commerçants Wenzhou en France aujourd'hui, quand ils sont quittés, je pense qu'ils sont dans beaucoup de secteurs différents. Donc, certains sont des commerçants, d'autres sont des simples paysans. Et on a aussi des fonctionnaires qui ont quand même quitté leur poste pour venir en France.
Et en France, une fois qu'ils arrivent, on les trouve dans quel secteur ?
La majorité, ils ont commencé par des secteurs assez traditionnels qui accueillent les migrants, c'est-à-dire le textile et le maroquinerie. Donc, ils commencent par travailler dans des ateliers avant de devenir eux-mêmes entrepreneurs.
Ouais. Et puis, il y a les fameux bars tabac. Il y a un jeune qui vous dit dans votre livre, « Aujourd'hui, les Chinois sont les seuls à être intéressés par la reprise d'un bar tabac. Nous sommes les Auvergnats du 21e siècle. » Pourquoi les bars tabac ?
En fait, le bar tabac, traditionnellement, c'est un secteur qui attire beaucoup des migrants, qu'ils soient indiens ou internationaux. Donc, auparavant, pour la génération avant, ce sont des Auvergnats. Mm-hmm. Mais leurs enfants sont bien intégrés, ils ne veulent plus reprendre ce métier dur. Donc,
parce qu'il faut être ouvert sur un très long temps dans la semaine, hein, c'est ça ? Tôt
ouais.
Le matin et on ferme tard.
Oui, ouais, c'est des horaires de travail très, très longs. Et au côté, pour les Chinois, du coup, la première génération se sont lancés dans le textile et l'imbo-export. Mais aujourd'hui, ce métier a changé aussi. Ça devient beaucoup plus cher pour les Made in China. Du coup, leurs enfants ont donc repris le métier de tabac qui est beaucoup plus sûr par rapport à l'import-export.
Mm-hmm. Est-ce que vous diriez que finalement, les Chinois remplacent d'autres communautés ? Vous dites qu'ils ont remplacé les Auvergnats pour les bars tabac. Ils ont remplacé aussi dans le sentier, le quartier du textile à Paris, les Juifs qui étaient très présents autrefois.
Oui, effectivement, tous ces métiers qu'on vient d'évoquer, textile, maroquinerie, bar tabac, sont des métiers qui sont très marqués par une sorte de niche ethnique. Oui. Donc, dans les communautés chinoises, dans différents moments, puisqu'il y a une tradition entrepreneuriale, donc il devient aussi des communautés qui peuvent prendre le relais dans ces vagues de migratoires.
Alors, vous le dites, il y a beaucoup de préjugés sur les personnes chinoises. Néanmoins, on découvre quand même dans votre livre, et ça, c'est bien une réalité, que ces gens-là travaillent beaucoup, vous l'avez dit vous-même, hein, pour reprendre un bar tabac, il faut être prêt à faire une amplitude horaire très, très large. Ils acceptent aussi des conditions de vie collectives dans des appartements, des systèmes de colocation. Pour que ça coûte moins cher, ils acceptent finalement une vie qui n'est pas si facile.
Oui, oui. En fait, j'avais débuté mon enquête de terrain justement dans un appartement de 3 pièces qui s'y logeait pourtant 10 adultes et 2 petits-enfants. Donc, effectivement, c'est une stratégie pour contourner un marché de logement privé très, très cher. Et pour ces jeunes, du coup, ceux qui tiennent un appartement en sous-louant cet appartement, ils peuvent épargner l'argent pour soutenir leur famille en Chine. Et pour les locataires, du coup, ça les permet aussi d'accéder au logement peu cher.
Ouais. Voilà. Comment les Chinois accèdent à la propriété, au fait d'acheter une société en France?
Bon, ça dépend des secteurs, mais au fur et à mesure, aujourd'hui, on voit aussi, au-delà des commerçants et des ouvriers, il y a aussi beaucoup de jeunes qui réussissent à devenir agents immobiliers. Et du coup, le fait qu'ils connaissent, qu'ils maîtrisent à la fois chinois et français, qu'ils ont des connaissances au sein de la communauté et parmi les Français, ça leur a permis de faire le rôle de l'intermédiaire pour aider l'autre à accéder à ce marché.
Ça veut dire qu'un Chinois qui veut acheter un bar tabac, il va passer par un agent immobilier qui vend des bars tabac pour les Chinois.
Oui, oui, ça pourrait créer une sorte de chaîne comme ça pour faciliter l'accès aux propriétés.
Pour monter son entreprise. Là aussi, on est sur des financements communautaires, des systèmes de solidarité où on pourrait aller jusqu'à dire que ce sont aussi des phénomènes de vassalité, d'allégeance, de dépendance.
Non, pas forcément. Effectivement, pour la première génération, il y a beaucoup de pratiques de tontine, c'est-à-dire la prête entre des interconnaissances. Aujourd'hui, finalement, ça se fait beaucoup moins aussi parce qu'au fur et à mesure, une communauté qui s'installe ici, finalement, ce lien de confiance s'affaiblit aussi.
Concernant l'éducation des enfants, on découvre qu'il y a beaucoup d'enfants qui vivent dans une vraie solitude. Alors, je ne sais pas si c'est un préjugé ou pas, mais en tout cas, dans les témoignages, c'est très présent. Des enfants qui sont déracinés, qui rejoignent leurs parents après avoir vécu avec les grands-parents en Chine les premières années de leur vie. Et finalement, ils ont des parents qui maîtrisent très mal les codes scolaires. Et ce qui est intéressant, c'est que parallèlement, les enseignants en France disent depuis des années les enfants issus de l'immigration chinoise, les enfants asiatiques, réussissent mieux scolairement que des enfants issus de l'immigration, par exemple, subsaharienne. Alors, est-ce que c'est vrai qu'ils réussissent mieux scolairement, malgré cette solitude, que les parents travaillent beaucoup, qu'ils ne sont pas à la maison ?
Oui, je pense qu'il y a une sorte une réalité duelle à la fois dans les recherches et sur le terrain. C'est-à-dire qu'il existe des enquêtes qui ont prouvé que les enfants d'origine Asie sud-est ont mieux réussi scolairement. Mais puisque les Chinois, les Asiatiques ne sont pas non plus une entité homogène, il y a beaucoup de différents vagues immigrés, des gens sont arrivés dans des situations différentes. Donc, sur le terrain, j'ai rencontré aussi beaucoup d'immigrés qui sont arrivés dans les années 2000. Ils ont été obligés de laisser leurs enfants nés en Chine et se quitter. Donc quand les enfants sont arrivés en France, à l'âge de 10 ans, 11 ans, finalement, ça a été très très dur de s'intégrer à l'école.
Vous avez vous-même été témoin de scènes difficiles en milieu scolaire avec des élèves, avec des enfants, leur famille, l'établissement.
Oui, oui, j'étais. Il y a une partie de mon terrain en effet dans un collège. J'ai assisté quelques scènes de médiation très très difficiles parce qu'en fait les enfants ils ne comprennent pas pourquoi leurs parents les ont laissés en Chine et donc la CPE ou les enseignants se trouvent dans le rôle de médiation pour aider les parents à comprendre la colère de leurs enfants.
Vous avez recueilli beaucoup de témoignages de la jeune génération. Il y a une chose qui me frappe, c'est que ces jeunes portent pour la plupart des prénoms français.
Oui, c'est intéressant parce que il y a plusieurs personnes qui m'ont dit que ça les a bien surpris. Très souvent, quand des jeunes couples ils ont leurs enfants nés ici, ils se disaient que c'est bien d'avoir un prénom français. Je pense que c'est une envie d'intégration pour leurs enfants. Mais en même temps, souvent ils choisissent comme de garder un prénom chinois. Mais j'observe que finalement
les deux,
ils utilisent.
Oui,
ils ont les deux prénoms, mais dans la plupart des cas, j'observais les parents ont tendance à oublier leur prénom chinois.
Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant qu'on entend j'entends beaucoup plus la jeune génération qui proteste contre le racisme dont elle est la cible. Est-ce qu'on a des jeunes qui ont plutôt envie d'utiliser leur deuxième prénom chinois ou pas ?
Vraiment, ça ne se passe pas beaucoup dans mon terrain. Tous les jeunes asiatiques, on se présentait avec les prénoms français.
Oui, en fait. C'est ça. On a Laurent, Isabelle, Antoine. Et c'est quand même très différent des jeunes issus de l'immigration maghrébine ou subsaharienne.
Oui, mais après, je pense que ce choix s'explique aussi par le fait que le prénom chinois est tellement différent. Voilà, c'est difficile de prononcer pour les professeurs. Du coup, peut-être pour les parents, donc c'est trop galère de garder le prénom chinois. C'est possible.
Bon, Yahan, c'est pas si compliqué hein, pour vous.
Oui, j'ai la chance.
Je voudrais lire un passage de votre livre. C'est à l'été 2012. L'hebdomadaire Le Point publie un article intitulé « L'intrigante réussite des Chinois en France ». Et l'article se termine sur les 5 commandements de l'entrepreneur chinois en France. Je vous les lis, ces 5 commandements, parce que ça dit beaucoup de choses. Hein. Censé lever le mystère et révéler la recette du succès, les 5 commandements, c'est « Tu travailles 80 heures par semaine, tu dors dans le restaurant avec tes propres salariés, tu ne rémunéreras pas tes employés, car ce sont des membres de ta famille, tu ne cotiseras pas, donc tu ne toucheras pas d'aide sociale et tu ne paieras pas d'impôts. »
Oui, ça...
La suite de la publication de cet article, l'Association des jeunes chinois de France a porté plainte avec SOS Racisme. Et d'ailleurs, ils ont obtenu gain de cause. Ça résume quoi, finalement, sur l'état d'esprit aujourd'hui sur cette communauté ?
Oui, je pense que justement, au contraire de l'image une minorité modèle, je pense que quand on dit son modèle, c'est parce qu'on assimile souvent les Chinois comme des commerçants réussis. Mais paradoxalement, la figure de commerçants immigrés, ça devient aussi une source de stigma, comme ce qui est exprimé dans cet article, quand des gens qui ont des pratiques illégales, même à la limite mafieuse, etc., un peu comme des envahisseurs pour l'économie française. C'est pour ça que l'article a été jugé diffamation. Et voilà.
Et vous, comment vous l'estimez, cette réussite économique ? Comment vous l'expliquez ?
Bah, je pense que quand on parle de niche ethnique ou entre soi économique, il faut quand même rendre compte que les immigrés, quand ils sont arrivés, ils sont aussi en face du marché économique qui est a priori plus discriminant pour les immigrants qui ne maîtrisent pas bien français. Et en même temps, ils ont choisi de servir dans le secteur tertiaire qui est beaucoup plus difficile en termes de conditions de travail. Ça reste des gens qui sont dans une partie indispensable de l'économie nationale. Mais pour autant, leur faible de qualification et le fait qu'ils ne sont pas dans la classe moyenne pourrait devenir une sorte de stigma. Donc, ce paradoxe, il faudrait la déconstruire. En fait c'est ça la source du racisme.
La plupart des parents qui sont arrivés en Chine avaient tous été à l'école en Chine ? En opposition, par exemple, à une immigration subsaharienne ?
Oui, pas. Je pense que ça dépend aussi de l'âge de migration, mais c'est vrai, en Chine, il y a quand même un système éducatif. Donc, pour les personnes qui ont aujourd'hui 40 ans, je pense que la majorité, ils ont fait au moins jusqu'au collège.
Oui, tout le monde a appris à lire, à écrire.
Oui, oui.
En Chine.
Et mais ça... pas en français.
Non, mais ça compte aussi pour... l'intégration scolaire des enfants ensuite, vous pensez ?
Oui, en tout cas en Chine, il y a quand même, je pense que dans la culture, il y a une sorte, on a une conviction en pensant que le système scolaire c'est la clé de réussite. Donc même si les parents sont pas forcément très diplômés, ils vont valoriser beaucoup l'investissement éducatif pour leurs enfants.
C'est la philosophie confucéenne.
Oui, effectivement, moi j'ai été éduquée comme ça.
Une communauté discrète, silencieuse, ça c'est l'image de discipline, avec des codes internes, une solidarité. Alors comment sont arrivées finalement dans cette communauté que l'on disait silencieuse, les révoltes, les cris de colère, à la faveur de quels événements ?
En fait, à partir des années 2010-2011, il y avait déjà des mobilisations dans le quartier de Belleville, au centre de Paris, sur la question des agressions. Et une certaine jeune, notamment l'Association des jeunes chinois de France, qu'on a cité tout à l'heure sous la FEPOINT, ils ont commencé à militer autour de ce sujet pour porter plainte. Et en 2016, après la mort de Charlene Zhang, un couturier qui était victime de l'agression violente à Aubervilliers, qui est morte cette date. Donc on voit une manifestation importante qui dit « préjugé tue ». C'est-à-dire que l'agression, ça reflète à quel point on pense que les Chinois sont tous des personnes à la fois riches, des commerçants riches, mais surtout des personnes fragiles et dociles, donc des victimes idéales.
En 2017, il y a aussi l'assassinat de Shaoyao Liu,
oui.
Père de 5 enfants, tué par balle lors d'une descente de police à son domicile dans le 19e arrondissement.
Oui.
Les policiers plaideront d'ailleurs un tir de légitime défense. Ça aussi, ça a déclenché une colère.
Oui, cette affaire qui a eu lieu juste 6 mois après l'affaire Charlene Zhang a provoqué beaucoup de colère, notamment des jeunes, parce que je pense que même si certains voulaient plus de protection policière sur la question de l'agression, mais beaucoup sont aussi quotidiennement des victimes de violences policières dans les quartiers populaires. Donc on voit après l'affaire Shaoyao Liu, il y a beaucoup de jeunes qui se sont mis à protester et aussi à crier que police assassin.
Est-ce que justement, dans cette colère contre les policiers, ça a rapproché les jeunes de la communauté chinoise de d'autres communautés subsahariennes, maghrébines, ou pas tellement, parce qu'il y a cette réussite économique qui peut aussi susciter des jalousies de la part d'autres jeunes issus de l'immigration?
Oui, je pense que ces deux phénomènes, la jalousie et les répertoires d'actions communes, c'est un phénomène paradoxal qui est une deux réalités coexistent aujourd'hui dans le quartier multiethnique au nord-est de Paris. Mais donc, si l'image que les Chinois sont une minorité mieux lotie devient la source de certaines agressions, donc, au moment de Liu Shaoyao, quand les jeunes asiatiques ont compris que on peut quand même être victime de violences policières, là, beaucoup ont aussi pris le répertoire d'action des émeutes, c'est-à-dire ils ont protesté, ils jettent le projectile contre la police, certains commencent à brûler la poubelle, etc. etc. Donc, finalement, ça montre juste que tous ces jeunes immigrés, ils font partie de minorités. Ils ont aussi une identité minoritaire qui sont en train d'émerger. En fait.
Si ce n'est que ces jeunes-là, dans leur famille, on l'entend beaucoup dans les témoignages que vous citez, le père dit toujours il ne faut pas faire de vagues pour bien s'intégrer. Et eux, ils ont envie de manifester pour devenir français.
Oui. En fait, dans les quelques manifestations que je suis allée en 2017, j'entends les jeunes, ils se discutent en français, en fait. Si aujourd'hui, il y a une protestation contre le racisme, c'est aussi parce que ils commencent à prendre colère sur le point de conscience du racisme et ils sont aussi en colère contre ce que leurs grands-parents ont subi comme racisme, comme des traitements injustes par les institutions. Et eux, ils veulent réclamer d'être citoyen français à part entière.
Quand vous parlez de traitement injuste par les institutions, à quoi vous pensez ?
Je pense qu'il y a la difficulté d'obtenir le papier, par exemple, parce que certains, ils sont ici depuis 10 ans, légalement, ils sont dans la bonne condition, mais très souvent, on peut aussi se faire rejeter au guichet parce qu'on n'a pas un bon maîtrise de français. Et beaucoup de jeunes, ils sont habitués à accompagner leurs parents pour aller à différentes institutions. Ils ont vu comment on se fait mépriser à la guichet de préfecture, à la banque, au commissariat, etc. Donc, ça fait partie des discriminations, des préjugés qui ont été intériorisés, en fait.
Malgré un très bon niveau de vie, hein, preuve qu'on peut très bien réussir dans le commerce en France sans maîtriser la langue, ils en sont la preuve.
Oui.
Vous restez avec nous, Yaran Chang. On va bientôt parler du racisme de manière un peu plus élargie à l'égard de la communauté asiatique. Mais on ira voir du côté de la Corée du Sud avec notre correspondant Nicolas Roca à Séoul. You took me as safe. That was your first mistake. Who said I was safe? The other night I watched the Oscars and the roster where the only yellow men were all statues. Whoa. Yeah. We a quarter of the population. There's a room of fucking 1% is laughing at you. Yeah. Fuck a bamboo ceiling. Fuck em. Guess
guess I gotta play the villain. ODB up at the Grammys on the mic like Wu-Tang is for the children. Bruce Jenner is a woman, OJ was acquitted, Kim K is a hero. The sky is the limit any minute now, they gon' let a nation brother get a lead role. Shots fired, I'ma reload. Never saw the side of Chino, he was always quiet, keeping to himself. Never mess with anybody else, that's the Jonathan that we know.
Seems so safe, till one day things go crazy.
Dumbfounded Dead Safe, c'est un rappeur américain qui est partagé entre ses origines coréennes, son quartier de Los Angeles, avec l'envie de faire connaître un rap plus représentatif pour sa communauté. On va y revenir aux Asiatiques des États-Unis. Nous sommes en compagnie de Yahan Chang, qui publie Une minorité modèle, Chinois de France et racisme anti-asiatique. Un sujet finalement que l'on découvre depuis pas si longtemps que cela. En tout cas, les Chinois de France manifestent dans la communauté chinoise de Belleville, notamment depuis les années 2010, 2011, 2016, 2017. À la faveur d'agressions physiques de membres de leur communauté. Direction maintenant la Corée du Sud. On est en ligne avec notre correspondant Nicolas Roca. Bonjour Nicolas.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Au cœur des clichés et stéréotypes que peuvent subir les personnes d'origine asiatique, il y a la K-pop, qui est un mouvement musical ultra populaire et bien au-delà de la Corée du Sud, avec en tête de proue BTS, le boys band sud-coréen, qui est l'un des plus populaires au monde, et son armée de fans en ligne, qui ont pris très clairement position sur les débats actuels autour du racisme anti-asiatique. Et le groupe lui-même s'est retrouvé, je crois, à plusieurs reprises victime de blagues ou de propos racistes, Nicolas Roca.
Oui, Emmanuel, avec le dernier incident en date qui nous vient du Chili, une émission parodique a mis en scène un sketch à propos du boys band où les membres du groupe sont nommés en référence tout simplement à Kim Jong-un, le dictateur nord-coréen. Pour ne rien arranger, l'un des membres du groupe de comiques fait semblant de s'exprimer en langue coréenne.
Kim Jong-un,
Kim Jong-un, Kim Jong-un, Kim Jong-un,
Juan Carlos.
¿Podría decirnos algo en coreano porque todos acá queremos aprender?
Voilà, alors pour ceux qui ne parlent pas du tout coréen, il s'agit d'une très très mauvaise imitation, clairement à caractère raciste et qui ne veut absolument rien dire. Et c'est pas la seule attaque dont a été victime le boys band. Encore il y a quelques semaines, c'était un DJ allemand qui a qualifié sur une radio bavaroise le groupe de, je cite, « virus pourri » pour lequel j'espère qu'un vaccin sera bientôt disponible. Une référence évidemment au Covid sous forme d'attaque raciste quant à l'origine du virus. La raison de ce dérapage, selon son auteur, c'est la reprise du tube du groupe Coldplay par BTS que le DJ avait jugé blasphématoire. Le groupe anglais, lui, a de son côté apporté tout son soutien à ses collègues sud-coréens.
À chaque incident, Nicolas, de ce genre, l'imposante communauté de fans de BTS, ceci dit, réagit extrêmement rapidement sur les réseaux sociaux.
Oui, la force de frappe de ceux qui s'autoproclament The Army, l'armée en français, n'est plus du tout approuvée. Le pouvoir de cette armée en ligne est très impressionnant car les fans du groupe ont établi le record d'engagement sur Twitter et le plus de vues en 24 heures sur YouTube. Après la diffusion de l'émission de télé chilienne dont on a entendu un extrait, les réponses ont immédiatement afflué. Le hashtag Racism is not comedy, le racisme n'est pas une blague, est passé pendant quelques heures en top tweet aux États-Unis et c'est allé assez loin car un compte chilien combien de fans de BTS a poussé les internautes à déposer une plainte contre l'émission. Par la suite, l'émission a réagi en s'excusant et en assurant qu'elle continuerait à s'améliorer et à écouter les critiques. Idem pour la radio allemande qui a tenté d'éteindre le feu en affirmant que la volonté du DJ n'était pas de faire un amalgame raciste mais plutôt une critique musicale.
Ouais. Alors au-delà des réponses virales des fans, les sept membres de BTS eux-mêmes se sont aussi exprimés sur le sujet.
Oui, mais pas à la suite des événements dont je viens de vous parler. C'est surtout après les fusillades d'Atlanta le 16 mars dernier, où 4 des 8 victimes étaient d'origine coréenne. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait entendre leur voix sur la question. C'est un événement dramatique qui a symbolisé un peu cette prise de conscience de l'existence d'un fort racisme anti-asiatique amplifié par la pandémie de Covid-19. La réaction du boys band, elle a eu lieu sur Twitter avec les mots suivants. Nous ne pouvons pas mettre des mots sur la souffrance de devenir un sujet de haine et de violence pour de telles raisons. Nos propres expériences sont sans commune mesure avec les événements des dernières semaines. Malgré tout, ils ont tout de même rappelé les injures dont ils avaient été eux-mêmes victimes. Nous avons reçu des discriminations en tant qu'asiatiques. On s'est moqué de la manière dont nous étions. On nous a même demandé pourquoi des asiatiques parlaient anglais. Alors pour réaliser un peu l'impact que ce groupe peut avoir sur un tel sujet comme sur d'autres, il faut savoir que ce texte a été liké 2,5 millions de fois.
Merci beaucoup Nicolas Roca à Séoul en Corée du Sud. Yahan Chang, la communauté asiatique aux États-Unis, effectivement, en ce moment, depuis déjà pas mal de temps, est sous le feu d'actes racistes, d'agressions.
Donald Trump, de toute façon, depuis le début de son mandat, il a eu une ligne claire anti-Chine. Mais là, il a vraiment profité de ce virus, pour cette pandémie, pour stigmatiser l'ensemble de la population asiatique en parlant de virus chinois, Kung Flu, etc. Et le résultat, c'est que ça a tellement légitimé les idéologies suprémacistes blancs aux États-Unis. Donc, ça a motivé de nombreuses agressions dans l'année dernière. Je crois qu'on a recensé au moins 3 800 agressions aux États-Unis.
Ouais, rien que pour la Californie, hein, un tiers de la population asiatique américaine, c'est l'État qui concentre évidemment la plus forte communauté asiatique, oui. 20 millions de personnes, en particulier originaires de Chine pour 23%, mais pas seulement, hein, il y a des Asiatiques d'Inde, il ne faut pas l'oublier, des Philippines, du Vietnam, de Corée ou encore du Japon. Mais effectivement, les chiffres d'agressions sont en hausse, que ce soit en Californie ou à New York d'ailleurs.
Oui, bon, on a beaucoup parlé de Twitter à long terme, mais à New York, il y a encore des agressions aléatoires comme ça visant des populations chinoises dans Chinatown.
C'est pas d'ailleurs forcément évident à chaque fois de faire qualifier l'agression d'agression raciste. C'est un problème, ça, pour les communautés asiatiques.
C'est jamais facile, en fait.
La fusillade d'Atlanta n'a pas été reconnue comme un crime raciste, alors qu'on avait 6 victimes sur 8 qui étaient asiatiques. Vous le ressentez comment, Yahan, comme une injustice, comme un déni?
Les deux, je pense. Je pense qu'aux États-Unis, justement, ça montre un besoin de mieux définir le racisme anti-asiatique, un besoin de beaucoup plus de témoignages pour montrer la présentation, pour démontrer ce mécanisme visant les populations asiatiques.
Le fait que les communautés asiatiques aux États-Unis trustent beaucoup de place pour parler, comme le disent les Américains, hein, pour employer leurs mots, trustent beaucoup de place dans les universités, dans les campus américains, parce qu'ils ont l'excellence scolaire, ils ont de très bons résultats, donc les universités les recrutent. Est-ce que ça a été aussi, depuis plusieurs dizaines d'années, une raison de frustration?
Oui, justement, le formule de minorité modèle, ça, visant l'asiatique, c'est un stéréotype qui est à l'origine venant de phénomènes aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, il y a une migration étudiante venant de l'Asie de l'Est qui est beaucoup plus datée qu'en France. Et effectivement, leurs enfants ont des bonnes performances scolaires. Donc, du coup, ça devient une communauté très, très visible au sein de très bonnes universités, d'universités très renommées.
On parle moins de la souffrance des femmes asiatiques qui sont, aux États-Unis beaucoup, peut-être en France aussi, objet des fantasmes sexuels. Alors aux États-Unis, des fantasmes sexuels des vétérans des guerres indochinoises, y compris lorsque ces Américaines sont complètement américaines, de parents chinois qui n'ont rien à voir avec la mémoire de la guerre d'Indochine. Mais Est-ce que vous avez eu des éléments de témoignage sur ces préjugés-là, ce racisme-là?
Oui, c'est pas un terme qui est privilégié dans mon Angleterre, mais quand même quand j'ai parlé avec les jeunes asiatiques, en fait régulièrement les jeunes filles asiatiques me racontent des harcèlements dans le travail, à l'école, mènent des remarques aléatoires dans la rue. Donc très souvent quand on voit une femme asiatique, une fille asiatique, on pense à un objet sexuel désirable, mais aussi quelqu'un docile, soumise à tous les formes de domination masculine.
Yan Han, vous vivez en France depuis une dizaine d'années. Comment vous percevez le racisme à votre égard, Yan Han ?
Oui, je pense que ça a pris le temps pour que les paroles se libèrent. C'est-à-dire que quand je viens d'arriver il y a 10 ans, effectivement pour les migrants asiatiques que j'ai rencontrés, on est souvent étiquetés comme des personnes vraiment comme des minorités réussies, des personnes qui ne font pas vague. Et c'est seulement à partir de 2015-2016 que les médias ont commencé à remarquer le racisme anti-asiatique. Ça a été très très long pour une prise de conscience à la fois dans les médias mais aussi au sein de l'université. Donc finalement c'est vraiment un sujet qui va ensemble avec des actions pour une prise de conscience.
Il y a quelqu'un qui témoigne dans votre livre, alors je ne sais pas vous comment vous vous positionnez par rapport à ça ou comment vos parents vous ont dit de vous positionner quand ils ont su que vous alliez partir pour la France, mais quelqu'un dit si c'est un petit problème, tu minimises et si c'est un gros problème, tu minimises aussi.
Oui, c'est vrai que je pense que dans notre culture pas forcément confucien, parce qu'en Chine, ils ont quand même détruit le confucianisme, l'héritage. Mais c'est vrai que très souvent, on a appris qu'il faudrait quand même tolérer, il faudrait prendre la paf, être endurant. L'endurance a été souvent considérée comme une vertu. Donc, résistance n'est pas un complément très valorisé dans l'éducation familiale.
Et aujourd'hui, alors, endurer et résister et protester?
Oui, je pense que pour les jeunes asiatiques, ils ont comme assumé leur double héritage, leur double identité. Je pense que leur côté français l'a encouragé pour se battre, pour se défendre.
Et vous, comment vous situez alors aujourd'hui? Est-ce que l'héritage de la Révolution française est en vous aussi, Yaran Chang?
Oui, moi j'avoue que je suis justement venue en France parce que j'étais très attirée par toutes ces cultures de mouvements sociaux. Donc je préfère ce côté héritage que mon héritage donné.
Merci en tout cas à vous, Yaran Chang. Il faut vous lire hein, pour mieux comprendre cette communauté chinoise en France et le racisme anti-asiatique qui ne touche pas que les Chinois. Vous publiez à partir d'une thèse de doctorat ce livre « Une minorité modèle, point d'interrogation, chinois de France et racisme anti-asiatique » aux éditions La Découverte. Vous restez avec nous jusqu'à la fin de l'émission, Yaran Chang. Dans quelques instants, portrait d'un étudiant syrien en France. Ce sera juste après cette rappeuse malaisienne, Zamaera.
With the boys from cartel, barely sleep, but still book a hotel. Toss a salad till you funny, had your fill. Autograph on the bottom of the bill, yeah. Get money, get this money, money. Get money, get this money, money. Get money, get this money, money.
Put it in the bag, it's forever, ever money, ayy.
Yeah, get money, get this money, money. Get money, get this money, money. Get money, get this money, money.
Put it in the bag, that's forever, ever money.
Ring, ring, it's the dollar bill collector. Came to steal your bag. You could call me klepto, expecto. Me to pull up the Patronum. Came in with your man. Bitch, I might just phone him. Cause he like a bad boy's baby. Plus I'm putting all the work that are getting faded. Switching it up with that streamlined flow. Kill everyone in the building. I'm a G.I. Joe. I know. A G-E-T-M-O-N-E-Y. Lil A and Zambino, yes, we pretty fly. If you got that gig, yes, we need a slice. If you got that dough, we gon' make the pie.
Get money, get this money, money. Get money, get this money, money. Get money, get this money, money.
Put it in the bag, it's forever, ever money, ayy.
Yeah, get money, get this money, money. Get money, get this money, money. Get money, get this money, money.
Put it in.
Making big moves, making big figures, making wanna put a ring on all of these fingers. Making big moves, making big figures, making wanna put a ring on all of these fingers.
Cleaning up the bank when I'm cashing out checks. Making ballot deals on till my pockets pack. Cleaning up the bank when I'm cashing out checks. Making ballot deals on till my pockets pack.
Get money, get this money, money. 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 Yeah, get money. Get this money, money, yeah. Get money, get this money, money, get money, get this money.
Yeah. Kicking Obi with the first, nobody mess with the gang.
Get money, get this money, money, get money, get this money, money, cash money, get this money, money, get money, get this money, money, get money, get this money, money, get money, get this money, money, cash money, get this money, money, get money, get this money, money, get money, get this money.
Vous écoutez 7 milliards de voisins, on est bien sur RFI. Portrait maintenant de Hussein, 22 ans, il est étudiant à l'école Polytechnique, l'une des plus grandes écoles d'ingénieurs françaises. Et jusqu'à son arrivée en France, fin 2017, il ne connaissait pas un mot de français. C'est un peu comme vous, Yaran Chang, lorsque vous êtes arrivé en France il y a 10 ans, vous avez appris la langue française en un temps record. Il est le seul étudiant né en Syrie de sa promotion. Réfugié, il a fui la guerre et la crise économique dans laquelle s'est enlisé depuis son pays. Et Charlie Dupuis, notre reporter, l'a rencontré en région parisienne, où il vit maintenant. Quand la guerre a commencé dans son pays en 2011, Hussein vivait avec sa famille à Homs. Il était alors collégien en classe de 5e.
On a dû arrêter l'école pendant 2 semestres. Bah, l'année d'après, on a pu aller à l'école. Et il y avait un sniper qui habitait juste en face de chez moi. Quand il tirait derrière nous, juste pour nous faire peur. Surtout quand on allait à l'école, il travaillait pour l'armée, quoi. On ne savait pas pourquoi il faisait ça. Ça s'est bien passé. Donc voilà, on n'est pas mort, on ne s'est pas blessé, donc ça va. Enfin, le sniper, c'était pendant du coup, le 4e. Toute cette durée, il y avait le sniper.
Là, c'était en 2012.
Enfin, là, c'est la 2e année, quoi. Après, il est parti. On ne sait pas pourquoi. Et on a pu continuer nos études.
Là, on raconte 5 ans de votre vie, du coup, de la 4e au bac.
J'ai passé mon bac là-bas. Et il y a la tradition, si on a des bonnes notes, on envoie nos enfants faire médecine. Je dis 80-95% de mes amis qui ont des bonnes notes, ils ont fait médecine. On était sûr de rapporter le service militaire pendant 10 ans. Donc ça, déjà, c'est super bien. Tout le monde doit le passer, le service.
Ça, c'est obligatoire pour tous les hommes,
ouais,
en Syrie.
Ouais. Enfin, les hommes qui ont des frères, qui ne sont pas uniques.
Les fils uniques ne sont pas obligés de faire leur service militaire.
Non. Enfin, voilà, les gens qui sont rentrés pendant la guerre pour faire leur service, qui doit normalement durer 2 ans max, ouais, ils sont restés là-bas 4-5 ans et on ne les laissait pas sortir après. Il y a beaucoup de gens qui partent en service militaire et qui meurent. Parce que c'était la guerre. Tout le monde voulait partir. Et ma famille ne voulait pas partir. Surtout avec mon père, qui voulait qu'on reste, qu'on fasse quelque chose en Syrie. Je crois qu'il imaginait qu'on fasse une sorte d'hôpital, moi et mes frères. Il était vraiment contre partir. Il y avait un magasin où il vendait des CD. Bah, le magasin il était bombardé. Mais il y avait mon grand-père maternel qui l'aidait. Et aussi, il y avait des organisations de la Croissant Rouge qui donnaient des aides alimentaires et des pâtes, des trucs comme ça. Mais sinon, ma mère, elle est une femme au foyer, elle ne travaillait pas. Voilà, on n'avait pas d'argent après. Et là, j'ai commencé à chercher partout des bourses. Ça durait vraiment longtemps. J'ai postulé pour, on va dire, 60 quelque chose, bourses.
Pour faire une année d'études à l'étranger?
Juste pour partir. Juste pour avoir un visa.
Et vous avez postulé dans quel pays?
J'ai postulé pour aller au Japon, aux États-Unis. J'ai postulé beaucoup aux États-Unis. J'ai postulé au Canada beaucoup. En France, j'ai postulé pour une seule bourse et j'ai été accepté.
Oui, donc à ce moment-là, peu vous importait le pays?
Oui, juste partir de la Syrie, quoi. C'était une bourse pour venir étudier une année de langue. C'est là que je devais dire ça à mes parents. J'étais accepté pour aller à l'étranger.
À l'époque, c'était seulement pour une année.
Ouais, on avait des cours avec d'autres personnes étrangères qui qui voulait aussi apprendre la langue. Et là, j'ai commencé à chercher un travail. Je me rappelle avoir postulé chez une vingtaine de McDo, des KFC, des trucs comme ça.
Des fast food.
Ouais, je parlais vraiment très peu de français, très très peu. Pendant les entretiens, la plupart du temps, je me trouve à parler en anglais parfois. Et les managers, ils n'étaient pas contents. J'étais pris pour un McDo qui était à une heure de chez moi. Et ça commençait le travail de minuit jusqu'à 4 heures du matin. Le temps que j'avais ma bourse. Et à la fin de l'été, j'ai eu ma bourse, heureusement. Et ensuite, voilà, j'étais accepté dans une seule prépa. C'était une prépa scientifique. C'était une petite prépa dans le 15e. Ça s'appelle lycée Buffon. J'ai majoré toujours les maths en physique. Alors que je parlais très peu de français. À la fin de l'année, comme j'étais le premier, j'ai demandé à ma proviseure de parler avec le proviseur de Louis-le-Grand pour qu'on essaye de passer en deuxième année, alors que c'est interdit.
Louis-le-Grand, c'est un lycée prestigieux du 5e arrondissement à Paris.
Un jour, je reçois un mail de Louis-le-Grand qui dit « Félicitations, tu peux passer en deuxième année chez nous. » Mais voilà, aussi j'arrive à Louis-le-Grand avec un niveau très faible par rapport aux autres élèves. Et voilà, après, on a passé les concours... Et j'avais pas en tête d'être un jour admissible à Polytechnique. J'étais super content.
Est-ce que c'est une nouvelle que vous avez partagée avec votre famille en Syrie?
Ouais, je l'ai partagée, mais école Polytechnique, ça veut rien dire. Et c'était en mode bravo. C'est tout, quoi. Ouais, mais quand on a le statut de réfugié, on peut pas retourner dans le pays d'origine. Et donc, ils savaient que j'allais pas retourner. C'est dur d'être loin de sa famille, de ne pas pouvoir les voir. Mais de revenir dans mon pays, là, pendant cette situation, il y a une chance que je sois mis en prison ou quelque chose. Et il y a un cauchemar qui est très commun à tout le monde que je connais, ici, qui sont partis à l'étranger. C'est de revenir dans leur pays d'origine, enfin en Syrie, quoi, et ne plus pouvoir partir.
Et ça, vous faites encore ce type de cauchemar?
Ouais, alors que ça fait 3 ans et quelques que je suis ici.
Voilà, Hussein, 22 ans, étudiant à Polytechnique en France. Il envisage de faire une demande de naturalisation française. Il ne sait pas encore ce qu'il va faire plus tard. Yaron Chang, vous qui avez recueilli énormément de témoignages pour votre livre sur cette minorité modèle de la communauté chinoise en France. Là, on entend un réfugié modèle ultra brillant. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette histoire?
Oui, je pense que le plus touchant dans ce côté, c'est peut-être de nous rappeler qu'on fait quitter son propre pays, quitter sa propre famille. C'est rarement un choix volontaire. Là, notre jeune...
Hussein,
apparemment, à l'âge de l'adolescence, c'était un désir de s'émanciper d'un pays en guerre, de pouvoir vivre à peu près normalement comme d'autres ados de son ménage. Donc, il est venu en France, il a comme bien souffert de travailler dur dans la nuit. Pour pouvoir continuer à faire ses études. Et par ailleurs, pour moi, j'ai aussi halluciné. Je trouve qu'il parle quand même très bien français. Il n'a pas de fort accent. Il est très compréhensible. Mais en même temps, il ne nie pas que c'est quand même compliqué pour lui déjà d'envisager de retourner dans son pays en guerre. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on entend très souvent des discours anti-immigrés qui les perçoivent comme des envahisseurs. Mais en fait, écouter des témoignages comme ça, on peut savoir que c'est jamais un choix volontaire pour être loin de sa famille. Voilà.
Merci à vous, Yaron Chang, d'avoir participé à l'émission. Votre livre pour mieux comprendre la communauté chinoise de France et le racisme anti-asiatique, une minorité modèle, point d'interrogation aux éditions La Découverte. Merci à vous.
Merci. Au revoir.
Et merci à toute l'équipe qui prépare cette émission. Juliette Brault, Delphine de Dianous, Romain Dubrac. Toutes nos émissions sont évidemment disponibles en podcast sur les plateformes de téléchargement. Dans quelques instants, le journal. Et nous, on se retrouve lundi.
« 7 milliards de voisins, c'est fini !»